Chapitre 5, où la comédie se transforme en un drame aussi terrible qu'inattendu. Le dîner se terminait. Il avait été cordial, charmant et même gentiment animé. Le docteur Lebossert et Jean Lachesnais avaient fait largement honneur aux mets excellents préparés par Yvette, et notamment à la surprise annoncée par elle, c'est-à-dire au délicieux soufflé au kirsch dont le docteur et le peintre se régalèrent en fin gourmet. Cette bonne chère et la grâce de celle qu'il avait préparée avaient créé autour des convives une atmosphère de bonne humeur d'où toute contrainte était bannie. On eût dit que tous trois avaient entièrement oublié les incidents de la veille. Pas une seule fois, dans les propos qu'ils échangèrent, ils n'y firent la moindre allusion, jusqu'au moment où, en passant l'atelier et en constatant qu'il était près de 21 heures, M. Lebossier observa « Je suis surpris que nos deux douaniers ne soient pas encore là. » « Sans doute, remarqua judicieusement la Chesnay, ont-ils préféré qu'il fît tout à fait nuit pour nous rejoindre ?»« Oui, c'est infiniment probable, acquiesçait le médecin, en s'installant dans le studio pour le café, les liqueurs et les cigares. Ce fut l'exacte répétition de la soirée de la veille, ainsi que Wilbright n'était pas là. Une heure se passe, pendant laquelle la conversation continue, toujours empreinte d'une gaieté franche et de bon aloi. Elle fut interrompue par un coup de sonnette dans le vestibule. Yvette tressaillit légèrement. « Ah, ça !» fit-elle, avec un sourire un peu contraint. « Est-ce que ça va recommencer comme hier ?»« En tout cas, ponctuait Jean, ils s'y prennent de bien bonne heure. Mais ce sont nos douaniers, » pronostiqua M. Lebossert. Ben, je vais le recevoir, décida le jeune artiste. Il s'en fit aussitôt, pour revenir quelques instants après. Il semblait soucieux. Non, ce ne sont pas les douaniers, annonça-t-il, mais Harold, le valet de chambre de Wilbright, qui vient demander au docteur Lebossert s'il ne pourrait pas venir près de lui. Il paraît qu'il y a de nouveau une assez forte température. « Tiens, tiens !» grommela le médecin, « pourvu qu'il ne nous fasse pas une friction de poitrine. » S'adressant à Yvette, il ajouta, « Vous permettez, madame ?»« Mais certainement, docteur. »« D'ailleurs, ce ne sera pas long. À tout à l'heure. » Jean reconduisit son invité jusque dans le jardin. Il le vit s'éloigner avec Harold dans la direction du village de Kearney. La nuit était tout à fait tombée, une nuit lourde, opaque, chargée de gros nuages noirs et bas. Très au loin, au-dessus de l'île de Groix, des éclairs illuminaient l'horizon, précurseur d'un prochain orage. La mer, que l'on devinait plutôt qu'on ne l'apercevait, était presque calme. Le vent était complètement tombé et c'est à peine si l'on entendait à intervalles réguliers le choc très atténué des vagues sur les brisants. Jean rejoignit sa femme qui n'avait pas quitté l'atelier. Il la trouva pensive. L'expression joyeuse qui un instant auparavant éclairait son visage avait disparu. D'une voix nuancée d'hésitation et de timidité, elle articula « Oh, je crois que maintenant les douaniers ne viendront plus. » Le peintre eut un geste évasif. Elle ajouta « Nous n'avons plus qu'à attendre le retour du docteur. »« Oui, c'est cela, » approuvait la Chesnay. Après un bref silence, il reprit « Allez, si tu me faisais un peu de musique. » Yvette avait une fort jolie voix et chantait en s'accompagnant elle-même. « Je veux bien, » fit-elle en se dirigeant vers le piano. Au moment où elle allait s'y installer, elle dit « Mais j'y songe, nous n'avons pas de domestique. Oh, je ferais mieux de profiter de ce que M. Lebossert n'est pas là pour desservir la table. Ce sera du travail en moins pour demain matin. » « Très juste, approuvait Jean, mais je vais t'aider. Mais non, mon chéri, reste là, bien tranquille, à lire. » Et j'ai mis le couvert, je peux bien l'enlever. Comme tu voudras. Ils s'enfuirent tous deux dans la salle à manger. Un quart d'heure après, les verres, les assiettes, les plats, les bouteilles, tout avait disparu successivement dans le monte-charge qui fonctionnait de l'office à la cuisine. Demain, décidément, j'irai chercher la fille de la mère Leport qui fera le gros du ménage. C'est cela, approuvait Yvette. Tu vois, mon chéri, que je m'en suis pas trop mal tiré. Mais dis à merveille, n'exagérons rien. Maintenant, retournons à l'atelier, puisque cela te fait plaisir. Je vais te chanter quelque chose. Quoi ? Oh, ce que tu voudras. Du Schumann ? Oh, si tu veux. Ils rejoignirent le studio. Yvette se mit au piano, préluda par quelques arpèges brillants, afin, comme elle le disait, de se faire un peu les doigts. Puis ce furent quelques accords lents, profonds, harmonieux. Enfin, sa voix s'éleva, très pure, interprétant avec beaucoup de sensibilité et le goût des admirables amours d'une femme, où le maître allemand a sublimement fait frémir toute l'ardeur de la passion, tous les frissons de la volupté, tous les élancements de la souffrance. Jean l'écoutait, doublement charmé. En même temps qu'il entendait sa femme, il la voyait, parcourant le clavier de ses doigts souples, agiles, chantant par cœur, la tête légèrement relevée, éclairée par la lueur discrète et enveloppante des deux petites lampes placées de chaque côté du piano, et dont les abat-jours, légèrement teintés de rose, tamisaient doucement la clarté. Le visage d'Yvette reflétait si fidèlement, si sensiblement les sentiments qu'elle exprimait, qu'on eût dit que l'âme du musicien s'était incarnée en elle. C'était mieux que de l'art étudié, c'était de l'inspiration même qui faisait de cette jeune femme l'interprète rêvée du grand compositeur qui a si bien su traduire en ses œuvres immortelles toute la douleur humaine. Cette véritable communion sous l'espèce du beau les empêchait de s'apercevoir que le temps s'écoulait. Et quel ne fut pas leur étonnement lorsque, Yvette s'étant arrêtée, ils entendirent sonner 11 heures à la vieille horloge de campagne qui se dressait à l'un des angles de l'atelier. « Non, déjà ! » s'exclama Yvette. « Oh, déjà ! » répéta Jean. Et il ajouta, « Oh, je croyais qu'il était 10 heures à peine. Oh, je sais bien, ma chérie, que lorsque tu chantes, c'est pour moi le paradis. » Et voilà pourquoi le temps a passé si vite. La jeune femme, spontanément, enlaça son mari et laissa retomber sa tête sur son épaule. Jean, tendrement, l'embrassa. Elle reprit. « Mais pourquoi le docteur n'est-il pas revenu ?» Et sans attendre la réponse de la Chesnay, elle ajouta aussitôt. « Oh, pourvu que notre ami Wilbright ne soit pas plus mal !»« Oh, j'en ai peur !» déclarait Jean. Il est fort possible que M. Le Bosser ait été obligé de retourner à Quiberon chercher des médicaments pressés. C'est fort possible, en effet, mais attendons. Yvette prit un journal qui traînait sur une table et on commença la lecture. Jean alluma une cigarette et s'étendit à moitié sur un divan. La jeune femme, qui d'un œil distrait parcourait la feuille, fit au bout d'un instant. Il est regrettable qu'on ne puisse pas téléphoner pendant la nuit. Nous eussions été tout de suite fixés. Le fait est, reconnaissait le jeune artiste, qu'en France et surtout en province, nous sommes bien mal servis. Pourtant, nous payons des impôts assez considérables. À qui le dis-tu ? Mais à quoi cela tient-il ? Oh, ma pauvre chérie, a un tas de raisons qui demanderait beaucoup de temps à développer, et à l'une surtout, c'est-à-dire à cette inertie dont les gouvernés semblent aussi profondément atteints que les gouvernements. Chez nous, vois-tu, la grande devise, pas d'histoire, qui pendant si longtemps était restée à peu près exclusivement celle de l'administration, est devenue peu à peu celle de Monsieur Tout-le-Monde. On a renoncé à réclamer parce que l'on s'est aperçu à la longue que les réclamations n'aboutissaient jamais à rien. Et l'on vit ainsi pressuré, gêné, persécuté même, au nom de la liberté, l'égalité et la fraternité, par une collection sans cesse revue et augmentée de tyrannos embusqués derrière des inexpugnables cartons verts de leurs bureaux. Mais arrêtons-nous sur cette bande dangereuse, car elle nous entraînerait trop loin. Soyons philosophes, et nous pouvons l'être d'autant plus, ma chérie, que nous n'avons pas à nous plaindre de la vie et que les petites misères quotidiennes dont nous souffrons et qui sont le lot de nos contemporains sont bien peu de choses à côté des grandes douleurs qui bouleversent tant de cœurs, des sombres catastrophes qui s'abattent sur tant de foyers. Aussi, un coup de sonnette interrompit la Chesnaye. Ah, cette fois, dit-il, c'est le docteur. Il voulut gagner le vestibule. Impossible. La porte lui résista, comme si elle était fermée hermétiquement. Et pourtant, il n'y avait pas de verrou au dehors, et la serrure intérieure fonctionnait librement. Malgré tout son courage, le jeune artiste sentit quelques gouttelettes de sueur apparaître subitement sur ses tempes. Saisie, elle aussi, d'inquiétude, Yvette interrogea: Tu peux pas ouvrir la porte? Non, répliquait d'une voix sourde Jean, qui avait renouvelé sa tentative. Ben, je ne sais pas ce qu'il y a. Au même instant, l'électricité s'éteignit. La jeune femme eut un cri de frayeur. La sonnette s'agitait désespérément. Des coups retentissaient à l'étage supérieur aussi fort que ceux de la veille. Oh, Jackie, notre petit mon Dieu! Se lamentait la jeune femme dans les ténèbres. La Chesnaye se dit: Bon, ce n'est pas le moment de perdre la tête. Et tout haut, il lança à sa femme en allumant un briquet: Ne te frais pas ainsi, je t'en supplie. À la lueur de la très faible lumière qui vacillait entre ses doigts, le peintre se dirigea vers une fenêtre qu'il ouvrit. Il voulut ensuite pousser les deux auvents pleins qui la fermaient. Mais de même que la porte, il ne parvint pas à les écarter même d'un millimètre. On eût dit qu'une force aussi formidable que mystérieuse les immobilisait sur leurs gonds. En haut, les coups avaient cessé. Des bruits de pas que l'on cherche à étouffer s'élevaient dans l'escalier. J'ai peur, bégaya Yvette, qui s'était rapprochée de son mari. Notre Jackie, notre enfant. Les pas s'éloignaient dans la direction du sous-sol. Un ricanement prolongé, terrible, diabolique, s'éleva dans le vestibule. On eût dit le dans défi de l'enfer à l'humanité. Au comble de la terreur, Yvette s'écroula, à demi évanouie, sur un divan. Jean, en prenant dans sa poche son Browning, se mit sur la défensive. Quelques secondes après, un nouveau prodige s'accomplissait. Tandis que les auvents de la fenêtre s'entr'ouvraient lentement, un coup violent ébranlait la porte qui donnait dans le vestibule. Jean se précipita, la porte céda à sa poussée. En même temps, l'électricité se rallumait. Le vestibule était désert. Aucun bruit ne se faisait plus entendre. Un calme impressionnant régnait dans la maison. Galvanisée par l'amour maternel, Yvette, qui n'avait plus qu'un désir, vola vite auprès de son enfant, s'était relevée en s'approchant de son mari, et lui disait: Vite là-haut! Oui, allons. Ils escaladèrent l'escalier et constatèrent avec effroi que la porte de la nurserie était ouverte. Vite, la Chesnaye fit manœuvrer un commutateur et s'élança dans la pièce. Nounou dormait profondément dans son lit, ainsi que l'enfant dans son berceau. Yvette se pencha vers le petit, qui se réveilla et fit entendre des cris plaintifs. Elle le saisit dans ses bras Et déjà, tendrement, elle approchait ses lèvres du front du bébé, lorsqu'un cri d'horreur lui échappa. Mais ce n'est pas mon enfant! Tu dis? S'exclama le père, envahi à son tour d'une atroce angoisse. Regarde! Tremblait la jeune femme en présentant le bébé à son mari. Mais c'est pas notre Jackie, mais ce n'est pas lui! En proie à une indicible épouvante, la Chesnaye contemplait l'enfant que lui présentait sa femme. Yvette avait raison. Ce n'était pas son petit. Au lieu du beau poupon, si vivant, si plein de santé et de sève dont il avait été si bien le droit d'être fier, la Chesnaye avait devant lui un pauvre petit être maladif, rachitique, et qui semblait n'avoir que peu de temps à vivre. Il n'en croyait pas ses yeux. Cependant, il dut se rendre à l'évidence. Cloué sur place, pétrifié, Yvette restait debout, tenant toujours dans ses bras cet enfant que l'on avait substitué au sien. La Chesnaye se détourna vers la nounou, qui continuait à dormir, littéralement assommée par un sommeil de plomb. Anne! Appela-t-il. Anne! Comme elle ne lui répondait pas, Jean prit son bras qui pendait hors du lit et le secoua doucement d'abord, puis avec force. Mais rien ne paraissait devoir arracher la malheureuse fille à la torpeur léthargique dans laquelle elle était plongée. Jean revint vers sa femme. Elle était debout au même endroit et tenait toujours dans ses bras l'enfant inconnu. Chut, fit-elle à son mari. Ne dis rien, il se rendort. Et elle se mit à le bercer doucement dans ses bras, tout en murmurant. Dors, mon petit Jackie, dors, mon bien-aimé. Ton papa et ta maman veillent sur toi. La Chesnaye regarda sa femme. Ses yeux hagards ne quittaient pas l'enfant. Un léger tic nerveux faisait frémir les coins de sa bouche, et d'une voix dolente, elle continuait à chantonner. Fais dodo, mon Jackie, fais dodo, tu auras du gâteau. Le pauvre garçon sentit son cœur se déchirer. Sa femme bien-aimée, cet être tout de charme et d'amour, qui quelques instants auparavant l'entourait de ses bras frémissants, se câlinait si tendrement contre sa poitrine. Son Yvette adorée était devenue folle. Il s'aperçut alors seulement qu'il tenait toujours son revolver à la main. Alors, devant l'effondrement de son bonheur, en face de l'atroce existence qu'il allait désormais connaître, une tentation horrible s'emparait de lui, celle de se faire périr tous deux, elle et lui, ensemble. En quelques secondes, tout serait fini. Cette solution n'est-elle pas préférable à l'abominable avenir qui les attendait tous deux, elle dans les ténèbres de la démence, et lui dans le désespoir inconsolable de sa vie à jamais ravagée. Mais à peine cette tragique pensée s'était-elle emparée de son cerveau, qu'un grand mouvement de révolte le dressa contre lui-même, et il s'empressa de chasser cette horrible tentation avec une farouche énergie. Non, dit-il, pas ça, pas ça. Ce serait une désertion, une lâcheté. À présent, j'ai deux devoirs à remplir, retrouver mon fils et rendre la raison à ma femme. Yvette reposa l'enfant dans le berceau et, après l'avoir embrassé avec précaution, elle dit à son mari, du ton le plus naturel du monde, ne l'embrasse pas, car tu pourrais le réveiller. Viens. Elle s'enfuit sur la pointe des pieds. Torturé, mais n'osant rien dire, Jean lui emboîta le pas et, à sa suite, pénétra dans leur chambre. Yvette était souriante comme d'habitude. On eût dit qu'elle avait totalement oublié les événements tragiques qui venaient de se dérouler, ainsi que la substitution de cet enfant étranger au sien, substitution qui avait provoqué en elle un tel choc, un tel traumatisme, que son cerveau n'avait pu y résister. Aucune fébrilité dans la parole ni dans les gestes, à peine un peu de fatigue sur son visage. Je me couche, dit-elle, car je tombe de sommeil. Tout en commençant à se déshabiller, elle fit: Tout à l'heure, j'ai dû m'endormir dans l'atelier. C'est étrange, il y a comme un trou dans mon esprit. À partir du moment où le docteur Labosser est parti chez Wellwright, jusqu'au moment où je suis monté avec lui embrasser Baby, je ne me rappelle plus rien, absolument rien. C'est bizarre. J'en compris que l'ère des pieux mensonges et des héroïques équivoques était ouverte pour lui. Affectant une certaine gaieté, il eut le courage de répondre à sa femme: Mais en effet, chérie, après m'avoir chanté quelques mélodies de Schumann. Ah oui, maintenant, je me souviens, je t'ai chanté du Schumann. Oui, tu es venu t'asseoir près de moi sur le grand divan et tu t'es endormie, la tête appuyée contre mon épaule. Ah oui, c'est cela, approuvait la jeune femme. À présent, je me souviens tout à fait bien. Tu ne m'en veux pas, mon Jean, de cet instant d'amnésie. Pardonne-moi l'expression, littéralement abruti. Mais tu t'étais donné beaucoup de mal pour préparer notre dîner. Oui, c'est peut-être cela, l'odeur du charbon. J'ai encore un peu mal à la tête, mais une bonne nuit et ce sera fini. Au fait, ce bon docteur est-il revenu? Oui, mais comme tu dormais profondément, il n'a pas voulu te réveiller. Et Wilbright? Il va aussi bien que possible. Le docteur est reparti? Oui, ma chérie. Il a bien fait, accentua Yvette, car j'en suis sûr, cette nuit nous allons dormir tranquille. Un quart d'heure après, en effet, elle reposait paisiblement. Quant à Jean, il passa une nuit atroce. Accablé de douleur, il ne parvenait pas à mettre un peu d'ordre dans les idées qui tourbillonnaient dans son cerveau. À chaque instant, cette phrase terrible vibrait à ses oreilles, leitmotiv implacable et lancinant du malheur qui s'était abattu sur son foyer. Ma femme est folle, et l'on m'a volé mon enfant. Les sanglots l'étouffaient. Il ne pouvait rien tant qu'il ne ferait pas jour. Et puis il n'osait pas quitter Yvette. Si elle se réveillait, elle ne le trouvait plus là, près d'elle. Il demeura là, sans oser bouger, frôlant son corps qui s'abandonnait au repos. Sa respiration était régulière. Aucun cauchemar, aucun rêve ne l'agitait. C'était l'apaisement total. Jean se disait: Oh! Puisse-t-elle demain et après continuer à prendre cet enfant pour le sien? Elle ne souffrira pas, au moins. Elle sera encore amoureuse et heureuse. Cette fragile et douloureuse espérance ramena un peu de calme en son esprit, et dans le silence et dans l'obscurité de la nuit, il s'efforça de déchiffrer l'énigme au milieu de laquelle il se débattait, et de répondre à cette interrogation mentale qui résumait toutes celles qu'il avait déjà assaillies. Mais pourquoi m'a-t-on enlevé mon fils et l'a-t-on remplacé par cet être souffreteux, malingre et qui semble condamné à promptement mourir? Dans l'impossibilité de donner la moindre explication à ce problème, il chercha à reconquérir cette maîtrise de lui-même dont il allait avoir si grand besoin. Et il se disait: Oh, la version des contrebandiers, à laquelle je n'avais pas été loin de me rallier, doit être abandonnée. En admettant en effet que ces gens aient un intérêt à me faire partir d'ici, et qu'ils soient imaginés dans cette intention les pires manigances, Il n'aurait pas été jusqu'à me voler mon petit et à le remplacer par un autre. Quant à un phénomène surnaturel, si j'avais pu, ne fût-ce qu'un moment, me laisser influencer par le récit de Will Wright, et plus encore peut-être par l'atmosphère de légende qui est celle de ce pays, maintenant je n'hésiterai plus à affirmer que les soi-disant esprits ne sont pour rien dans cette tragique aventure. Alors, Jacques s'éteignait le front, comme s'il voulait en faire jaillir une idée, un peu de lumière, mais c'était toujours l'inconnu, la nuit, le néant. À quoi bon, se dit-il, muser en des recherches stériles et des hypothèses invraisemblables qui n'aboutiraient qu'à me surexciter davantage et à me faire perdre ma faculté et mes moyens. Oh, demain, je me confierai à Le Bosseur et à Wellbright. Tous deux sont de vrais amis sur lesquels je puis entièrement compter. Sans doute, pas plus que moi, ne trouverait-il tout de suite le mot d'une énigme qui, a priori, apparaît indéchiffrable. Mais ils me donneront certainement d'utiles conseils. Et à nous trois, peut-être, atteindrons-nous un résultat que seul je serais incapable d'obtenir. Il continua à écouter Yvette dormir. Pas un instant, il ne ferma les paupières, ruminant malgré lui les idées les plus cruelles, les suppositions les plus fantastiques. Au petit jour, brisé, rompu, il laissa, malgré lui, sa tête retomber sur l'oreiller, près de celle de sa compagne. Luttant contre l'accablement qui l'envahissait, il voulut rester éveillé, car il était indispensable qu'il vît Anne et qu'il lui fît la leçon, avant qu'Yvette ne rouvrît les yeux. Vers 6 heures, son oreille, qui n'avait pas cessé de rester aux aguets, perçut un léger bruit dans la mercerie. Il reconnut la voix de la nurse. Avec précaution, il se glissa hors du lit et, vêtu dans son pyjama, il traversa le cabinet de toilette et passa dans la chambre du petit Jackie. Anne s'était levée, elle avait passé un peignoir, elle était en train d'ouvrir la fenêtre et les auvents qui donnaient sur la campagne. En se retournant, elle aperçut la Chesnaye et remarqua aussitôt son visage bouleversé. « Madame n'est pas malade ?» fit-elle avec inquiétude. Le jeune artiste répliquait d'une voix sourde « Non, non, madame n'est pas malade. » Alors ce monsieur, Jean, qui n'en pouvait plus, sentit ses jambes flageoler sous lui. Très pâle, il se laissa tomber sur une chaise. Nounou s'écriait « Mais je vais appeler madame. « Gardez-vous-en bien, interdisait le peintre, qui à ces mots semblait avoir récupéré toute sa vigueur. Et gravement, il ajouta: Anne, je sais que je puis compter sur vous. Oh, pour ça, oui, monsieur. Bien plus que jamais, je vais avoir besoin de votre dévouement, de votre discrétion, et je dirais plus de votre amitié. Monsieur peut être tranquille. Tout ce que je pourrais faire pour lui et aussi pour madame et le petit, je le ferais de grand cœur, je vous le jure. Merci, ma bonne Anne. Maintenant, je vais tout vous dire. Il s'est passé ici cette nuit quelque chose d'épouvantable. Pas possible. Non, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et moi qui ai si bien dormi, trop, beaucoup trop bien. Car, sauf le respect que je dois à monsieur, j'en suis encore tout abruti. Regardez dans ce berceau, reprenait Jean, la gorge serrée. Anne s'approcha. L'enfant dormait sur le côté droit, la tête à moitié enfouie dans son oreiller. La brave fille se pencha, blêmit, et eut un cri. Chut, silence, ordonnait Jean. Prêt à défaillir, Anne déclarait. Mais ce n'est pas le petit Jacky, monsieur, non, ce n'est pas lui. Et tout en pleurant, elle ajouta. Mais c'est un autre qu'on a mis à sa place pendant que je dormais, mais c'est épouvantable. Comment cela a-t-il pu se faire? Pourquoi s'attaquer à un pauvre bébé de quelques mois? Ceux qui nous l'ont volé, ils auraient bien fait de me tuer. Mais comment ont-ils pu faire leur coup sans me réveiller? Oh, les monstres! Surtout que monsieur n'aime pas croire que c'est de ma faute. Mais non, ma bonne Anne, pour rien au monde, je ne voudrais vous rendre responsable de ce malheur. Monsieur est bien bon. Et cette pauvre madame, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle est capable d'en devenir folle. Ma pauvre Anne, dit Jean avec un sanglot, c'est déjà fait. Mon Dieu! En quelques phrases, la Chesnay mit la nurse au courant des circonstances dans lesquelles, la veille au soir, sa femme et lui s'étaient aperçus de la substitution.
Mais quand on pense que j'ai rien entendu, se lamentait Anne. Sûr que ces bandits ont dû me faire avaler ou respirer quelques sales drogues. Mais par exemple, je me demande par où ils sont entrés, sans que personne ne les voie. Sûr qu'ils ont dû passer par la chambre de monsieur et madame, et par le cabinet de toilette, car j'avais fermé au verrou la porte qui donne dans ce couloir.
Tout cela, déclarait la Chesnay, c'est l'affaire de la police. Avisons d'abord au plus pressé. Ainsi que je viens de vous le raconter, ma jeune femme, en découvrant dans le berceau un autre enfant que le sien, a été foudroyée à un tel point que je crains pour sa raison. En effet, c'est un bien pour un mal. Non seulement elle apparut presque aussitôt oubliée, tous les événements qui avaient précédé ou accompagné l'enlèvement de notre pauvre Jacky, mais elle s'est encore obstinée à prendre cet enfant pour le nôtre. Elle l'a bercé dans ses bras, recouché quand il a été endormi, et même embrassé en l'appelant son chéri. Oh, ma pauvre Anne, j'en avais le cœur fendu en pièces. Elle est ensuite rentrée dans notre chambre avec moi. Elle était toute gaie, toute souriante, toute heureuse. Alors vous comprenez, n'est-ce pas? Tout à l'heure, quand elle va venir, si dans son égarement elle persiste à prendre cet enfant inconnu pour le nôtre, ne la détrompez pas.
Je m'en garderai bien, monsieur.
Dites comme elle.
Oui, monsieur.
Cela me permettra, pendant ce temps, de rechercher mon fils.
Et moi, monsieur, de prier le bon Dieu pour qu'il vous le rende.
Surtout, Anne, ne vous trahissez pas.
Je ferai bien attention. Mais c'est égal, ce sera dur pour moi de soigner et de dorloter un étranger.
Ce n'est pas de sa faute à ce pauvre gosse.
Je le sais bien, mais ça me fera tout de même quelque chose.
Anne, je vous en prie, faites que l'illusion de ma malheureuse femme ne se dissipe pas avant que notre Jacky ne soit rendu.
Je vous le promets, monsieur.
Et, s'approchant du berceau, elle fit.
Monsieur a raison, ce n'est pas sa faute à ce petit. Dire que je ne l'ai pas encore même regardé. Comme il est chétif, cette pauvre petite tête. Oh, il est réveillé, il ne dit rien, il serre ses poings, ses yeux sont déjà tout tristes. Oh, on dirait qu'il n'a plus la force de crier.
Et emporté par sa générosité naturelle, Anne s'écria,
« Je vais lui donner une bonne tétée. »
Jean retourna dans sa chambre. Yvette dormait encore. Mais presque aussitôt, elle se réveilla.
« Jean, fit-elle de sa voix harmonieuse, tu es déjà debout ?»«
Mais oui, mon Yvette. »«
Mais quelle heure est-il donc ?»«
7 heures. »
« J'ai envie de dormir encore un peu. Ça ne te gêne pas, je t'en prie.
Jean,
ma chérie, tu as bien reposé, toi aussi? Ben oui. Ben tu vois, les revenants ne sont pas revenus. Peu à peu, elle s'était dressée sur son séant. Le peintre apercevait sa silhouette dans le demi-jour qui vaguement éclairait la pièce. Quelques rayons de soleil qui furtivement s'étaient introduits à travers les rainures des auvents semblaient faire jaillir des étincelles d'or parmi sa belle chevelure blonde.
« Au fait, » fit-elle, « oh, j'ai assez dormi comme cela. Ouvre-nous les volets et que je vois tout de suite la lumière du ciel bleu et que je respire à plein poumon le grand air du large. »
Jean obéit. « Mais ne se rappelle rien, » se dit-il. « Pourvu, mon Dieu, pourvu que son erreur dure. » Tout en allongeant ses bras d'une ligne et d'un modèle magnifique, Yvette reprenait.
« Mais crois-tu qu'ils sont stupides, nos domestiques, d'être partis ainsi ? Je crois qu'ils ne sont pas prêts de retrouver une aussi bonne place. C'est ce que me disait hier cette brave nounou. » Puis tout en sautant légèrement en bas de son lit, elle fit « Tiens, je vais embrasser mon Jackie. »
Elle se drapa dans un déshabillé, chaussa ses babouches et s'enfuit dans la nursery. Jean la suivit en tremblant. L'épreuve allait être décisive.
« Bonjour, nounou !»
lançait la jeune femme à l'âne qui tenait l'enfant sur ses genoux. C'est en vain qu'elle lui avait offert le sein. Le petit s'était obstinément refusé à le prendre.
« Baby a bien dormi ?»
interrogeait Yvette.
« Il a été un peu agité, » crut devoir dire la brave fille. « Et ce matin, il n'a pas l'air d'aller très bien. »
Yvette considéra le petit. Debout sur le seuil, Jean regardait sa femme, le cœur battant d'angoisse.
« Comme il a mauvaise mine !» s'écriait la jeune maman. « Hier soir, lui qui était si beau, si bien portant. »
La nounou fit observer.
« Oh, les enfants, ça s'abat très vite, mais ça se remet de même. »«
C'est vrai !» ponctua Yvette en s'emparant du bébé, qui fit entendre quelques petits cris plaintifs.
« Oh, pourvu qu'il n'ait pas attrapé un rhume !» continuait-elle. « Il ne tousse pas ?»«
Non, madame, je crois qu'il souffre plutôt du ventre. Il a fait si chaud tous ces temps derniers, et malgré toutes les précautions qu'on prend pour eux, forcément les nourrissons en subissent les effets. »«
Mais comme il est changé !»
se désolait madame la Chesnay.
« Oh, c'est à ne pas le reconnaître. Je ne serais pas sûr que c'est mon Jackie, que je me demanderais si ce n'est pas un autre enfant que j'ai dans les bras. »
Jean respira plus librement. L'illusion se prolongeait. C'était toujours du temps de gagner. Jugeant que c'était pour lui le moment d'intervenir, il s'avança en disant
« Alors, bébé est souffrant ?»« Mais vois ce pauvre mignon, » reprenait Yvette. « C'est extraordinaire. C'est qu'en quelques heures, le mâle peut faire de ravages chez un petit enfant.
Bon, chez les bébés de son âge, déclarait le jeune artiste, cela est assez fréquent.
J'ai peur qu'il ne soit très mal, vois-tu, qu'il nous fasse une crise de diphtérie ou une méningite.
A-t-il de la fièvre ?
Oh, j'ai pris tout à l'heure sa température, déclarait Anne, il avait 37,4.
Non, ce n'est rien, opinait Jean.
Mais c'est trop, surtout le matin, affirmait la maman.
Écoute, ma chérie, recommandait Jean, ne te mets pas martel en tête. Je m'en vais téléphoner tout de suite au docteur Le Bosser de venir. La Chesnay descendit dans son atelier où se trouvait le téléphone. Il demanda le numéro du médecin. À l'autre bout du fil, une voix tremblante, apeurée, celle de la bonne, lui répondit que monsieur le docteur n'était pas rentré de toute la nuit et qu'elle était bien tourmentée.
Allons bon, se dit Jean, il manquait plus que cela. Il a certainement dû lui arriver un nouvel incident. Qui sait, s'il n'est pas tombé dans un guet-apens organisé par des gens qui avaient intérêt à l'empêcher de revenir ici. Je vais m'informer auprès de Whitebright. Il réclama et obtint assez facilement la communication avec l'Américain.
« Allô, cher ami, lança-t-il. Comment cela va-t-il ? »
James répondait.
« Mieux, beaucoup mieux. Ce n'était qu'une crise de paludisme. Je n'ai plus de fièvre et je vais me lever tout à l'heure. Et vous ?»«
Ben ici, répliquait le peintre d'une voix altérée, il s'est passé au cours de la nuit des événements d'une certaine gravité et que je ne puis pas vous raconter par téléphone.
Que me dites-vous là ?
Attendez-vous à quelque chose d'inouï.
Dans une demi-heure, je serai près de vous.
Merci, j'ai grand besoin de votre amitié et de vos conseils.
À ce point ?
Oui, mon cher. Je suis un homme profondément malheureux.
Vous m'effrayez.
Un mot tout de suite, mon cher James.
Je vous en prie.
Le docteur Lebosser est-il bien venu hier soir vous rendre visite?
Oui, parfaitement. Je l'avais envoyé chercher car je me sentais fort mal à l'aise. Et après m'avoir assuré, prédit que je serais debout le lendemain, il est reparti, m'a-t-il dit, vous rejoindre à Carrivette. Eh bien, je ne l'ai pas revu. Et tout à l'heure, sa bonne m'a téléphoné qu'il n'avait pas reparu à son domicile.
Que me dites-vous là?
Mais la vérité, mon cher James, c'est qu'un épisode du drame affreux au milieu duquel je me débats.
Alors, j'accours.
Encore merci.
La Chesnaire accrocha le télécepteur. Encore trop bouleversé pour être capable de prendre lui-même une décision, et ressentant avant tout un irrésistible besoin de confidence, en même temps que d'appui moral, il attendait avec impatience l'arrivée de son ami, lorsque Yvette apparut.
« Tu as téléphoné au docteur ?» demanda-t-elle.
« Oui, ma chérie. »«
Il va venir ?»
Oui, crut devoir mentir le jeune artiste.
Jackie a l'air d'aller un peu mieux. Nourrice lui a fait prendre quelques cuillerées d'eau sucrée avec un petit peu de fleurs d'oranger et il s'est endormi. En attendant le médecin, je vais m'habiller.
C'est cela, approuvait Jean. Elle repartit vite, très vite. Elle semblait préoccupée, triste, mais parfaitement normale. Jean, resté seul, se plongea dans ses réflexions lorsque, au bout d'un quart d'heure, on sonna à la porte d'entrée. Il s'en fut ouvrir, croyant que c'était Will Wright. Un cri lui échappa. « Le docteur !» Monsieur Lebosser, la chemise fripée, les vêtements en désordre, nu-tête, les traits livides, se dressaient devant lui. « Oui, moi, » fit-il d'une voix un peu rauque. « Mais vous arrivez à propos, je viens de vous téléphoner. Votre bonne m'avait dit que vous n'étiez pas rentré depuis hier. » Le médecin précisait. « Oui, en effet, il m'est arrivé une aventure tout à fait extraordinaire. Et ici, donc, je m'en doutais, pas trop de bobos. Si. Madame la Chesnay? Non, Jackie. Votre petit? Il a disparu.
Hein?
Meurtre donc, docteur, revenez dans mon atelier. Et Jean entraîna le médecin, tout en disant d'une voix brisée. Oh, si vous saviez combien je suis malheureux.
Une fois dans le studio, Jean, laissant éclater son désespoir, s'écria « Oh mon cher ami, vous ne pouvez plus vous imaginer, mais c'est atroce. Mon petit, on m'a volé, mon petit, et ma femme est devenue folle. » Se cachant la tête entre les mains, le malheureux garçon se mit à sangloter comme un enfant. « Calmez-vous, conseillait affectueusement le docteur, et racontez-moi fidèlement ce qui s'est passé. »« Mais c'est tellement affreux, martelait la Chenet. Oui, tellement injuste, tellement abominable, que je ne peux pas croire que cela soit arrivé. » Une voix s'élevait près d'eux, teintée d'accent américain. C'est James Wilbright, qui, ayant trouvé la porte d'entrée ouverte, avait pénétré de lui-même dans le vestibule, puis dans l'atelier. S'avançant vers Jean, qui n'avait même pas eu la force de se lever, il fit, constatant son immense détresse, « Alors une catastrophe effroyable !» Puis se raidissant contre le désespoir qui le déchirait, le jeune artiste fit « Oh, pardonnez-moi, mes amis, cette défaillance, mais j'ai passé une nuit tellement atroce. Encore ?» s'exclamait l'Américain. Oh, l'autre n'était rien auprès de celle-ci, affirmait la Chesnay. Vous allez en juger par vous-même. Et il fit à le bosseur et à Wilbright le récit de la véritable tragédie qu'il avait vécue depuis la veille. Tous deux l'écoutaient avec une stupeur sans cesse grandissante. Lorsqu'il eut terminé, le médecin et l'Américain échangèrent un regard de douloureuse compassion qui n'était pas exempt d'une certaine épouvante. Le docteur Lebosseur prit le premier la parole. « Pour moi, fit-il, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il s'agit d'un véritable complot ayant pour objectif la substitution de cet enfant au vôtre. Ses auteurs, car ils étaient certainement plusieurs, ont commencé par éloigner tous ceux qui pouvaient les gêner dans leur criminelle entreprise. Les domestiques d'abord, puis les gendarmes, ensuite les douaniers, et enfin, moi. Il faut que je vous mette au courant, moi aussi, de mes avatars. Hier soir, cher monsieur James, en vous quittant, ainsi que je vous l'ai dit, je regagnais Kerrivette lorsque, en longeant le chemin qui donne accès à la villa, je butais contre un fil de fer qui avait été tendu en travers de la route, environ à 50 cm de hauteur. Je tombais le nez en avant, et j'allais me relever, mais je n'en eus pas le temps. Un coup assez violent que je reçus à la nuque, sans que je puisse apercevoir celui qui me l'avait asséné, me clouait sur le sol et je perdis immédiatement connaissance. Que s'est-il passé ensuite? Je serais bien en peine de vous le narrer. Tout ce que je puis vous dire, c'est que, lorsqu'il y a une demi-heure environ, j'ai récupéré mes esprits, je me suis trouvé dans une petite grotte qui se trouve au pied de la falaise, à 500 mètres d'ici, et où la mer ne monte qu'aux très grandes marées. La preuve du complot est donc nettement établie. « Docteur, interrompait Wilbright, voulez-vous me permettre une simple objection ?»« Je vous en prie, déclarait le bosseur. Rappelez-vous qu'à Noël dernier, il s'est produit dans ma propre maison des phénomènes analogues à ceux qui ont précédé l'enlèvement du petit Jackie. D'accord. Pourtant, il n'y avait pas chez moi d'enfant à faire disparaître, et les auteurs de ce crime exécrable ne pouvaient pas songer au deux fils de notre ami puisqu'il n'était pas encore né. Le docteur ripostait. Oh, a priori, votre raisonnement est fort juste. Mais qui vous dit que de mystérieux bandits ayant entendu raconter qu'il y avait des revenants sur la côte, ayant été mis au courant de la prétendue visite que ceux-ci vous auraient faite, ne se sont pas inspirés de ce fait pour organiser et régler la mise en scène extraordinaire qui devait leur permettre d'exécuter leur odieux forfait. Mais c'est fort possible, admettait l'Américain. Mais que faire? Interrogeait âprement Lachenaie. Bien à mon avis, ce qui prime tout, reprenait le docteur, c'est de laisser croire à Madame Lachesnais que son enfant est toujours là. Sinon, nous risquerions fort de voir la démence partielle et fort guérissable dont elle est atteinte se transformer en une folie totale qui risquerait fort de devenir incurable. Oh, ne m'en voulez pas, mon cher Lachesnais, si je vous parle avec cette brutale franchise, mais j'ai le devoir, à vous surtout, de dire toute la vérité. Je vous en remercie, s'écriait Jean en pressant la main du docteur. Celui-ci poursuivait. Cet enfant inconnu, me dites-vous, a l'air malade? Oui, très malade, accentuait le peintre. Je vais le voir et l'examiner et le soigner de mon mieux, car il faut qu'il vive du moins pendant tout le temps qu'il nous faudra pour retrouver l'autre et davantage, si cela est possible. Ce gosse anonyme n'est pour rien, lui, dans l'infamie de ceux qui l'ont apporté. Si on peut le sauver, on le sauvera. Très bien, approuvait l'Américain, avec une émotion qui n'était guère dans ses habitudes. Ceci dit, abordons la question principale, c'est-à-dire la reprise de Jackie. Tout de suite, mon cher Lachernais, je dois vous dire que vous allez avoir un atout puissant dans votre jeu. Depuis la fin de juillet, le plus grand des détectives de notre temps, y compris, cher monsieur Wilbright, tous ceux d'Amérique, j'ai nommé l'illustre Chantecoq, a loué, sous le pseudonyme de monsieur Dupont, une modeste maison au village de Kerrville, où il passe ses vacances dans le plus strict incognito. Nous, je le connais personnellement. Nous nous sommes rencontrés au front en 1914. Il avait été amené, assez grièvement blessé, à mon ambulance. J'ai pu lui procurer les premiers soins et j'ai eu assez de chance pour lui arrêter une hémorragie qui aurait pu être mortelle. Et depuis cette époque, nous sommes restés en relation. Chaque fois que je vais à Paris, je lui rends toujours une petite visite. Et c'est moi qu'il est décidé à venir prendre dans la presqu'île quelques semaines de repos. Je n'ai pas besoin de vous faire son éloge. Qui ne connaît Chantecoq? Il aura hommage non seulement à ses merveilleux dons de policier, dont les exploits sont devenus légendaires, mais encore à ses belles qualités de franchise, de droiture, de courage, de belle humeur et de bonté. Et vous croyez, interrogeait ardemment le jeune artiste, qu'il consentirait à s'occuper de cette affaire? Pourquoi pas? Comment c'est-vous, Wilbright? Et l'Américain ripostait. Je sais, oui, ainsi que l'affirme notre ami le bosser, que ce Chantecoq est un très remarquable détective. Mais ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux nous adresser tout d'abord à la police officielle? Oh, ce n'est pas mon avis, déclarait nettement le médecin. Et je vais vous en donner tout de suite les raisons. Premièrement, pour mettre en mouvement l'appareil judiciaire, il va falloir un certain temps, ce qui rendra la piste des visiteurs beaucoup plus difficile à repérer. Deuxièmement, je ne doute pas que les inspecteurs que nous enverra la brigade mobile de Rennes ne soient parfaitement capables de mener à bien une enquête aussi difficile. Mais je ne suis pas moins certain, sans vouloir diminuer en rien leurs mérites, qui sont considérables, que Chantecoq ne peut que leur être à tous infiniment supérieur.
Dans votre malheur, mon cher Lachesnais, vous avez la chance d'avoir tout près de si l'as des as, le roi des détectives, le limier qui n'a jamais connu un succès. Et s'il y a quelqu'un qui doive retrouver votre enfant, c'est lui. Profitez-en. Si vous le désirez, je puis aller le trouver tout de suite. Je vous en prie instamment, s'écriait Jean. Vous croyez qu'il acceptera? S'enquérait l'Américain.
Oui, je le crois fermement, affirmait le Bosser.
Mais dites-lui bien, reprenait le jeune artiste, que ces conditions sont les miennes.
Bon, il n'en imposera qu'une, celle de ne pas alerter la police officielle.
Pourquoi? Questionnait Wilbright.
Parce que, pour Chantecoq, c'est une question de principe. Jamais il n'accepte de s'occuper d'une affaire que s'il a été classé ou si la police n'en a pas été saisie.
C'est bizarre, ponctuait l'Américain.
Mais c'est très logique, au contraire, protestait le Bosser.
Chantecoq, à aucun prix, ne veut entrer en conflit avec ses anciens collègues, parce qu'il prétend que, quand les chasseurs se disputent, le gibier se sauve, et il a parfaitement raison.
James n'insista pas.
Le docteur reprenait.
Mais afin de gagner du temps, je vais vous demander, mon cher Lachesnais, de me conduire en auto jusqu'à Kérostin.
J'ai le temps de m'habiller.
Entendu, déclarait le Bosser. Un dernier mot. Connaissant mon Chantecoq sur le bout du doigt, je suis certain, mes chers amis, qu'il va réclamer le silence le plus absolu sur cette affaire. Il faudra donc recommander à la nounou de se taire.
Mais je réponds d'elle. All right, ponctua l'Américain. Le docteur déclarait.
Et pendant que vous vous habillerez, puis-je téléphoner à ma bonne afin de la rassurer sur mon sort.
Oh, je vous en prie.
Le Bosser saisit l'appareil, demanda son numéro et l'obtint avec une rapidité que ces demoiselles des PTT devraient bien montrer partout, en province. Après avoir raconté à sa servante qu'il avait dû passer la nuit auprès d'un de ses clients très gravement malade, et lui avoir annoncé qu'il ne savait pas encore s'il pourrait déjeuner chez lui, il raccrochait le récepteur lorsque Yvette apparut.
« Docteur, fit-elle, Jean vient de me dire que vous étiez là.
Ah tiens, c'est vous, Wilbright? Alors vous voilà tout à fait rétabli.
Mais oui, grâce aux bons soins de cet excellent docteur.
Non, ce n'était pas bien méchant, affirmait celui-ci. Un peu de paludisme. Un cachet de quinine en a eu raison. Et vous, chère madame?
Moi, répondait la jeune femme, dont le visage trahissait une certaine inquiétude. « Je me porte très bien. C'est Baby qui est souffrant. Il a bien mauvaise mine. Il a même changé au point d'en être méconnaissable. »«
Tiens, tiens, » grommelait le médecin.
« Il ne veut pas prendre la tétée. Je suis très inquiète. »«
Mais il ne faut pas toujours vous tourmenter. Avec les nourrissons. » On doit toujours s'attendre à de petites misères qui, sans présenter aucun caractère de gravité, suffisent pour les abattre. Nous allons voir ça.
Vous m'excusez, Wilbright, reprenait Yvette, qui n'avait jamais mieux paru en pleine possession d'elle-même.
Je vous en prie, répliquait l'Américain. D'ailleurs, je vais me retirer. J'étais simplement venu dire un petit bonjour à votre mari. « Je reviendrai tantôt prendre des nouvelles de Jackie. »«
À tantôt, cher ami. »
Tandis que James regagnait le dehors, Yvette conduisit le Bosser auprès du pauvre petit inconnu que, dans sa douce et quiète démence, elle continuait à prendre pour son fils. Anne le tenait sur ses genoux. Il continuait à geindre tristement. Au rapide regard que lui lança Anne, M. le Bosser s'aperçut qu'il pouvait entièrement compter sur elle.
Le médecin ordonnait « Déshabillez-le et déposez-le dans son berceau. »«
Pauvre petit chéri !» murmura Yvette. « Quand on pense qu'hier encore, à cette heure-ci, il était si plein d'entrain et de vie. »
Et dans son inconscience providentielle, miraculeuse, elle ajouta
« C'est inouï, invraisemblable, je ne comprends pas. »
« Il ne faut pas chercher à comprendre, » déclarait le praticien. « D'autant plus qu'a priori, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vous avez pris sa température.
Ce matin, à 7h30, il avait 37,4.
Mais ce n'est rien, surtout que les enfants montent très rapidement. » La nourrice déposait le petit dans son berceau. Avec ses membres frêles, son thorax saillant, son ventre très ballonné, le pauvre gosse donnait l'aspect d'une grande misère physique. Un coup d'œil suffit au docteur pour établir son diagnostic. Cachexie des nourrissons. Aussi, afin d'éviter à Yvette un spectacle qui aurait pu ou par trop l'émouvoir, ou rallumer en elle la lueur de la réalité, il s'empressa de ramener la couverture sur le corps du bébé en disant « Attention à ce qu'il n'attrape pas froid !» Et il ajouta « Madame, pendant que je vais examiner votre petit, pourriez-vous être assez aimable de téléphoner au pharmacien de Quiberon pour lui demander s'il n'a pas une balance pour peser les petits-enfants ?»«
Oh, j'y vais tout de suite, docteur !»
Ce n'était qu'un prétexte pour l'éloigner. En effet, dès qu'il eut disparu, le bosseur découvrit le bébé, se pencha, le palpa, l'ausculta. Puis il fit « Parbleu, c'est bien ce que je pensais. » Sans soin, ce pauvre petit en a pour 48 heures. Avec des soins, il peut vivre encore un mois. 6 semaines, mais pas davantage. L'essentiel est qu'on le prolonge jusqu'au moment où l'on aura retrouvé l'autre. Vous m'avez bien compris, n'est-ce pas, nounou ?
Oui, monsieur le docteur, répliqua la brave fille, tout émue.
Et avec force, elle ajouta,
on fera tout pour qu'il dure. Et je vous assure même que si on pouvait le sauver...
« J'en doute, » déclarait le médecin en hochant la tête. Anne eut ce mot à la fois naïf et grand.
« Je l'aime déjà, tant il me fait pitié.
Nous allons essuyer des injections d'eau de mer, » déclarait le bosseur. « Cela donne parfois d'excellents résultats. Vous êtes très saine. » Très vigoureuse, vous devez avoir un lait excellent, qui se remet à téter normalement, qui sait. Nous pourrons peut-être, après tout, le tirer de là.
Je le souhaite de tout cœur.
En tout cas, ce serait œuvre d'humanité. Ce gosse n'est pas responsable de ce qui s'est passé.
Sûr alors, oh, quel réveil, monsieur le docteur. Heureusement que cette pauvre madame croit.
Oui, heureusement. Et nous devons tout faire pour ne pas la détromper.
Vous pouvez être tranquille, ce n'est pas moi qui bavarderai ni qui gafferai. J'aimerais mieux me jeter du haut en bas de la côte.
En attendant, rhabillez vite votre nourrisson. Il ne faut pas que Madame la Chesnaye, en remontant, le voie ainsi. Évitez toujours de le lui montrer nu. Arrangez-vous de telle sorte qu'elle ne se rende pas compte de la gravité de son état. Car, en dehors de la méprise dans laquelle il faut espérer qu'elle va s'obstiner, elle a conservé un entendement et un raisonnement parfait. Mais elle est à la merci de la crise de désespoir que provoquerait en elle la découverte que cet enfant n'est pas le sien. Alors, je ne vous le dissimule pas, ce serait la folie complète et peut-être pour toujours.
Mais le bon Dieu ne voudra pas une chose pareille. S'écriait Anne.
À la condition que nous lui aidions, répliqua le docteur. On l'aidera, scandait l'excellente femme avec énergie et émotion. Pendant qu'elle rhabillait le poupon, le docteur, qui avait pris son stylo, griffonnait une ordonnance qu'il avait détachée de son carnet. Il la terminait lorsqu'Yvette reparut. « Eh bien, docteur, » interrogea-t-elle avec anxiété.
« Bon, rien de grave, premier trouble de la dentition. »«
Déjà ?»«
Eh oui, à peu de jours près, c'est le moment. »
« Alors il n'y a pas lieu de s'inquiéter. »«
Oh, pas le moindrement. »«
Oh, vous me délivrez d'une bien vive angoisse. »« Mais bien vrai, docteur, vous ne dites pas cela pour me rassurer. »«
Mais pas du tout. La preuve, c'est que les médicaments que j'ordonne sont très anodins et n'ont point pour but que de calmer la douleur. »«
Oh, le chérubin, » plaignait Yvette. Quand on pense qu'il souffre déjà.
Ah, c'est le lot des hommes dès le berceau.
Mais la nature, qui, soi-disant, fait si bien les choses, devrait bien épargner les tout-petits.
Elle s'enfuit vers l'enfant qui avait cessé de se plaindre. Elle l'embrassa au front tout doucement.
Il est moins brûlant, dit-elle.
« Mais puisque je vous dis que ça va très bien marcher, » s'exclamait le médecin. « Et puis vous avez la chance d'avoir une nounou parfaite. »«
Oui, c'est vrai. »«
Pour achever de vous tranquilliser, je reviendrai dans la soirée, mais c'est absolument superflu. »«
Bon, docteur, je ne voudrais pas abuser. »«
Mais dites-vous bien, chère madame, qu'à toute heure du jour ou de la nuit, vous pouvez compter sur votre ami le bossaire. »
La Chesnay survenait en costume de sport. Yvette se précipita vers lui en disant toute joyeuse
« Oh, il paraît que ce n'est rien !»«
Mais j'en étais sûr !» fit le jeune artiste en affectant une grande désinvolture.
« Dites-moi, cher ami, » interpellait le médecin, « je viens d'ordonner une potion pour votre petit malade. Voulez-vous m'emmener jusqu'à Quiberon ?» Vous rapporterez vous-même la bouteille.
Oh, mais très volontiers, acceptait Jean.
Docteur, faisait Yvette, oh, j'avais oublié de vous dire que le pharmacien n'avait pas de
balance. Eh bien, nous nous en passerons. Au revoir, chère madame, encore une fois, soyez rassurée. À ce soir, assez tard, par exemple.
Merci, docteur.
Il n'y a vraiment pas de quoi.
La Chesnay et le docteur s'enfuirent. Alors la demi-démente s'écria.
« Nounou, ma bonne nounou, ah, enfin je respire. Car si j'avais perdu mon petit, je crois que je serais devenue folle. »